Transatlant Queer, des nouvelles d'outre-mer.
Allô, Christophe Gérard à Paris, comment ça va?
Ça va bien, Denis Martin, et toi?
Oui, ça va bien. Ben, on va commencer cette première chronique de l'année. Il y a une bonne nouvelle. La Cour européenne de justice prend une décision décisive pour les droits des personnes LGBTQIA+.
Les bonnes nouvelles sont rares, donc c'est bien quand il y en a et il faut les dire, quoi. Donc c'est vraiment une décision historique, hein, puisque la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt concernant la collecte des données personnelles liées à l'identité de genre. Donc en fait, elle impose dorénavant de rendre facultative la mention des civilités binaires, donc madame ou monsieur, dans les formulaires administratifs et commerciaux. Donc c'est une décision qui ouvre la porte et la voie à des avancées telles que la reconnaissance du sexe neutre et qui peut avoir un impact également sur le mariage pour les personnes de même genre dans l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne.
Alors, quelle est l'origine de cette décision?
Bah, à l'origine, c'est une plainte française de deux associations, une dont je parle souvent, c'est Stop Homophobie, et l'autre qui s'appelle Mousse, qui en 2021 ont tout simplement porté plainte pour dénoncer les discriminations subies par les personnes transgenres, intersexes et non-binaires. En effet, les personnes dont l'identité de genre ne correspondait pas aux cases binaires classiques et imposées étaient contraintes de fournir des informations perçues comme excluantes, par exemple pour l'achat d'un billet de train à la SNCF, hein, puisque les civilités apparaissent sur le document à remplir pour aller jusqu'au bout de son achat. Donc, ces associations ont, dans un premier temps, saisi la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour dénoncer une pratique qui est en infraction avec le RGPD. Alors, le RGPD, c'est un règlement général sur la protection des données personnelles qui est en place en Europe depuis mai 2018. Et donc, il dénonçait la contradiction, notamment avec les principes de minimisation et d'exactitude. Alors, la plainte a été rejetée au niveau national, mais elle a été portée devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui vient donc de statuer en faveur des plaignants.
Bon, cette décision-là, ça ne concerne pas seulement que la France, là.
Et non, hein, puisque ça va avoir un impact sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Comme je disais, le RGPD, c'est vraiment un règlement qui est en place sur tous les pays de l'Union européenne. Donc, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la collecte systématique de l'identité de genre, lorsqu'elle n'est pas indispensable, notamment à la fourniture d'un service, constitue une violation du RGPD. Cet arrêt est désormais applicable dans toute l'Union européenne et va contraindre les administrations et les entreprises à adapter leurs pratiques. Donc, comme le signale le maître des Houlières, qui est l'avocat des deux associations, c'est une décision qui représente une avancée significative pour les droits des personnes LGBT+, mais aussi pour le respect des données personnelles de l'ensemble des citoyens européens.
Donc, est-ce qu'on peut dire que cette décision-là va vers une reconnaissance élargie des droits des personnes de LGBT, on dit de E ici, mais pas chez vous, LGBTQIA+?
Oui, tout à fait, hein, puisque au-delà des formulaires, elle pourrait accélérer des réformes plus larges. Certains juristes estiment que cette décision pourrait faciliter la reconnaissance du sexe neutre à l'état civil et encourager une harmonisation sur le mariage pour tous à travers l'Europe.
Mais j'imagine qu'il y a des conséquences aussi ou des impacts sur les administrations et les entreprises.
Oui, ça risque de prendre un peu de temps, hein, puisqu'il y a un travail de modification des documents existants. Par exemple, en France, les formulaires du ministère de l'Intérieur, et ça me fait un peu sourire, puisque notre ministre de l'Intérieur, c'est Bruno Retailleau. On sait toute la vigilance qu'il a, notamment sur toutes les questions de genre. Il n'est pas très ouvert sur le fait, le monsieur. Et également sur les documents de la CNIL, qui vont devoir être adaptés. Et ça a un impact également sur les entreprises, hein, puisqu'elles vont devoir se conformer aux nouvelles règles. Il est à noter, c'est important, qu'il y ait un dispositif de signalement qui est désormais accessible pour dénoncer les manquements éventuels, ce qui signifie concrètement qu'il pourrait y avoir des plaintes portées s'il n'y avait pas respect de cette nouvelle législation.
Je vais me permettre un petit commentaire ici, mais sachant la durée de vos gouvernements en France depuis quelque temps, ça risque de changer de ministre de l'Intérieur, s'il vous
Bah, il s'accroche quand même à son
plaît.
poste, hein, Monsieur Retailleau, parce que il était dans le précédent gouvernement, il est toujours là aujourd'hui. Donc,
Bon, le cadre d'application de ces nouvelles dispositions, c'est nuancé quand même.
Oui, alors la Cour de justice a précisé que la collecte des données liées au genre reste permise si elle est facultative ou dans certains cas, hein, si elle est justifiée par des objectifs spécifiques, comme par exemple les statistiques de parité ou les besoins médicaux. Quoi qu'il en soit, hein, cet arrêt marque, comme on le disait, un tournant pour l'inclusion et la protection LGBT+ en Europe. Et bah, ça rappelle également l'importance du respect des données personnelles dans les usages à la fois administratifs et commerciaux.
Bon, changeons de sujet. Le fondateur en France, le fondateur de l'application Coco.fr, a été mis en garde à vue.
Ouais, alors il s'appelle Isaac Steady, hein, il a été placé en garde à vue en effet le 7 janvier dernier dans le cadre d'une enquête de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Cette mise en cause fait suite à la fermeture du site en juin 2024 lors d'une vaste opération conjointe des policiers français et européens.
Alors, peux-tu nous dire là, un petit peu plus sur cette application Coco.fr?
Oui, alors c'est une application qui a été lancée en 2003 et qui est immatriculée en Bulgarie. Alors Coco.fr offrait un service de discussion en ligne sans avoir besoin de s'inscrire et en garantissant un anonymat total aux utilisateurs. Autre spécificité de la plateforme, l'absence totale de contrôle et de modération qui a transformé l'application en un espace propice à des activités illicites.
Ouais, c'est pas rassurant. Alors, à quoi a contribué cette plateforme?
Ben, très rapidement, en fait, Coco.fr est devenu un véritable repère de prédateurs sexuels. Parmi les infractions recensées, on peut évoquer des actes de pédocriminalité, de proxénétisme, de viol, de trafic de stupéfiants. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ce procès
Oui.
au Québec, mais Coco.fr a été mis en cause dans le procès Pellico, cet homme qui contactait d'autres hommes pour violer sa femme qui était tranquille, enfin, somnifère
Ouais.
et donc pas consentante,
Ah,
contrairement à ce que.
ça a fait la une ici aussi. J'avoue que
Voilà.
c'était tellement odieux, cette histoire-là. Alors donc, ce site-là a joué aussi un rôle là, dans nos communautés, là.
Ben oui, puisque de nombreux agresseurs piégeaient des victimes homosexuelles à travers des rendez-vous organisés sur le site, dans le but de les attaquer physiquement ou de les dépouiller. Alors, ça fait longtemps que nous on entendait parler de ça, et notamment des associations telles que Stop Homophobie. J'en parle beaucoup et j'en reparlerai à nouveau parce qu'ils font un gros travail ici en France qui est vraiment à féliciter. Donc, ils dénonçaient hein, les dérives du site et réclamaient sa fermeture depuis 2018. Donc, devant l'ampleur des infractions liées à Coco.fr, c'est chose faite maintenant. Le site est fermé depuis juin 2024. Si on devait faire un bilan, c'est plus de 23 000 procédures judiciaires où le site a été cité,
Wow.
qui ont été recensés et 480 victimes qui ont été identifiées pour l'instant.
Hallucinant.
Mais il y en a sans doute beaucoup plus, hein. Il a noté que des comptes bancaires liés à la plateforme représentant plus de 5 millions d'euros ont été bloqués dans plusieurs pays européens, puisque la plateforme existait un peu partout en Europe, et je pense dans le monde aussi, hein. Et donc les pays dans lesquels ça a été bloqué, c'est par exemple la Hongrie, l'Allemagne ou les Pays-Bas.
Alors revenons à Isaac, c'était dit là, qu'est-ce que ça veut dire pour cette garde à vue?
C'est une étape décisive, hein, puisque dans l'enquête qui vise à établir sa responsabilité en tant qu'administrateur de Coco.fr dans les différentes affaires en cours. Les investigations cherchent également à identifier d'autres individus qui pourraient être impliqués dans la gestion du site ou dans les infractions facilitées par celui-ci. Alors, les forces de l'ordre espèrent vraiment comprendre les mécanismes qui ont permis à Coco.fr de devenir un vecteur majeur. Dans des activités criminelles en ligne. Ce site a été mis en cause, d'autres le sont également, et il est possible que ce qui re reproche à Coco.fr revienne bien évidemment dans les affaires judiciaires.
Alors, on s'en va en Russie. La répression anti-LGBT fait une nouvelle victime.
Ouais, il s'appelait Andrei Kotov. Il avait 40 ans. Il était directeur d'une agence de voyage, Men Travel, et il organisait régulièrement des événements pour la communauté LGBTQIA+ en Russie. Il a été inculpé pour activités extrémistes et a été emprisonné. Et un journal russe qui s'appelle Moskovski Komsomolet, pardon, a annoncé qu'Andrei Kotov avait été retrouvé mort dans sa cellule le 29 décembre dernier. Alors, selon la version officielle, son décès est présenté comme un suicide. Mais dans un contexte de répression croissante contre les minorités sexuelles, plusieurs ONG russes engagées dans la défense des droits humains, mais également l'avocate de la victime, remettent en cause cette version officielle et s'interrogent sur les circonstances réelles du décès. Il est à noter en effet hein, que selon de nombreux témoignages, l'arrestation d'Andrei Kotov avait été particulièrement violente.
Oui, attends un petit peu. Oui, eh bien, il faut dire que ce drame met en évidence les conséquences tragiques là, de la politique anti-LGBT, plus du gouvernement russe, on le sait. Vladimir Poutine n'est vraiment pas un ami de nos communautés.
Non, depuis plusieurs années, les lois qui restreignent les droits des personnes LGBTQIA+ en Russie se sont multipliées. Par exemple, en 2013, une loi interdisait la propagande des relations homosexuelles envers les mineurs. Elle a été élargie en 2022 pour inclure les médias, les livres, les films et les plateformes de diffusion. Il faut rappeler également hein, qu'en 2023, la Cour suprême a qualifié le mouvement international LGBT d'organisation extrémiste, ce qui donne la possibilité de poursuites judiciaires contre les soutiens à la cause. Donc, un durcissement qui s'inscrit dans une stratégie politique présentant pardon, les valeurs LGBT+ comme des symboles de décadence occidentale. Et oui, nous sommes des déviants, sachez-le. La mort d'Andrei Kotov illustre bien les risques qu'encourent les militants et la communauté queer en Russie. Les libertés individuelles sont de plus en plus menacées sous prétexte d'un nationalisme ultra-conservateur qui commence à faire des émules ici en Europe, hein, puisque de nombreux pays de l'Union européenne ont des incohérences avec les positions et la politique pro-russe. Donc ça va être
Ben,
quand même assez.
commencer par le Rassemblement national, on doit le dire, qui tient, même s'il y a beaucoup d'homosexuels dans ses rangs, tient quand même des propos assez homophobes, merci.
Tout à fait.
Et puis on peut même dire aussi en Italie, on pourrait même ajouter l'Italie avec Giorgia Meloni, puis cette espèce de droite qui émane peut-être de la Russie, mais aussi des États-Unis, hein, ça commence à faire des petits. D'ailleurs, je n'ai même pas mentionné aujourd'hui que c'était une journée mémorable. J'ai juste dit que c'était mémorable notre 100e épisode, mais non pas pour ce qui s'est passé à Washington. Bon, on va terminer là-dessus. On a beaucoup de temps encore devant nous, mais allons-y. Tu vas nous parler de l'Espagne.
Oui, on l'a appris le 9 janvier dernier. Quatre hommes ont été condamnés à des peines allant de 10 à 24 ans pour le meurtre de Samuel Luis, un aide-soignant de 24 ans, qui a été battu à mort en 2021 en Corogne, en Galice. Alors, leur procès s'est déroulé en novembre dernier. Ils ont été reconnus coupables à ce moment-là, mais le verdict avait été mis en délibéré.
Alors, peux-tu nous préciser d'abord c'est quoi là, les faits qui leur sont reprochés?
Ouais, alors ce qu'il faut dire dans un premier temps, hein, c'est que ce crime homophobe avait suscité une profonde émotion et avait mobilisé des milliers de manifestants à travers l'Espagne. Pour en revenir sur les faits, hein, donc ça se passe à proximité d'une discothèque où Samuel a été violemment pris à partie par ses agresseurs qui l'ont accusé de les filmer alors qu'en fait il passait juste un appel vidéo. Donc un de ses agresseurs, bientôt rejoint par trois autres complices, a commencé à lui porter des coups violents après des injures homophobes et le jeune homme est mort peu de temps après l'intervention et l'arrivée des secours.
Quelle horreur, quelle horreur. Alors, c'est quoi le verdict là?
Alors, il y a plusieurs peines hein, qui vont de 10, 20 et 10 ans de prison. Et en plus de ça, bah, les accusés vont devoir verser plus de 300 000 euros à la famille de Samuel Luis. Donc, à l'annonce du verdict, le collectif Alas Coruña, qui était partie civile au procès, a salué une avancée majeure contre les crimes de haine, un tournant pour les droits LGBTQIA+ en Espagne. Quelque chose qui est aussi intéressant et à signaler au niveau de l'Europe, hein, puisque les agressions homophobes sont de plus en plus constantes. Il y en a eu une il n'y a pas très longtemps à Caen, un jeune homme qui a été lui aussi tabassé par une quinzaine d'individus dans le tramway à Caen, sous prétexte qu'il était homosexuel.
Ou qu'il y en avait là. Hein. Souvent, ils ne sont pas nécessairement homosexuels, mais on a juste décidé parce qu'ils ont le moindrement des caractéristiques efféminées. Oups, on les associe et subissent des agressions. J'aimerais revenir à ton premier sujet parce qu'il y a eu des agressions en France, mais peut-être pas sur cette application-là, c'est sur Grindr, si je me rappelle bien.
Sur Grindr, oui, il y a eu notamment des hommes politiques, en tout cas qui avaient des fonctions politiques au niveau municipal. Alors, je ne sais plus exactement où c'était, mais qui avaient été contactés par leurs agresseurs sur Grindr, en effet. Donc, c'est pour ça que je parlais de Coco.fr, mais il est évident qu'il y a d'autres applications et de sites sur lesquels on peut être confronté à ce genre de situation et d'agression. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant lorsqu'on fait des rencontres via ces applications
Ouais.
parce qu'on sait jamais, on n'est jamais sûr de qui on a derrière un pseudo
Ouais, puis
ou
souvent
ce
les
genre de
photos
choses.
ne sont pas les vraies photos et puis la personne, ouais. Et en fait, ici, ce qu'on recommande aux gens, c'est lors de ces rencontres-là, de faire les rencontres dans des lieux publics bien éclairés où il y a des gens autour pour ne pas se retrouver seul à seul avec ce genre d'individu, quand
Non,
même.
c'est la même chose ici, hein. C'est ce que recommandent également les associations qui prennent part, notamment Stop Homophobie, hein, ou d'autres associations, donc dans la lutte contre les actes LGBTQIA+ phobes.
On a une couple de minutes encore, quelques minutes à toi et moi. J'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi l'analyse qu'on en fait en France de cette montée des crimes homophobes, parce que, en fait, en Europe, parce que il me semble que c'était pas comme ça avant, là. On dirait que depuis quelque temps, c'est devenu pire.
C'est très compliqué parce qu'on est dans une situation où le gouvernement finalement ne prend pas acte de ces choses. En tout cas, c'est pas la priorité hein, du gouvernement. Tu le rappelais tout à l'heure, la priorité c'est de ne pas être censuré et de pouvoir durer. Donc ces sujets sociétaux ne sont pas pris en priorité. Donc c'est un peu compliqué.
Et les réseaux sociaux, est-ce que ça joue chez vous? Je sais qu'il y a une loi quand même qui contrôle un peu le genre de propos qu'on peut tenir sur ces réseaux sociaux, mais est-ce que ça fait vraiment une différence?
Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence par rapport à ce que vous connaissez. Les propos sont de plus en plus violents hein, à plusieurs reprises et sur plusieurs sujets. Je suis allé voir moi ce qui était dit sur pas mal de choses. Et oui, il y a une liberté de parole qui est assez impressionnante. J'entendais la personne qui était devant moi hein, dans l'émission tout à l'heure dire qu'on devait prendre la parole et
Mais se réapproprier la
arrêter d'être.
parole,
Voilà.
oui.
Et je pense qu'en effet, c'est quelque chose qu'on va devoir faire ici aussi. Mais il y a un gros travail à faire au niveau des associations parce que, en gros, les associations travaillent chacun de leur côté. Et il y a peu de choses qui sont faites en commun et c'est un peu dommage.
On n'a plus le
Mais on a,
choix, hein. Oui.
ouais. Et on a des personnes qui dénoncent les choses de manière assez forte. Je pense notamment à Jean-Luc Romero, Michel.
Oui.
Qui, au niveau parisien en tout cas, s'investit énormément dans tous les faits et qu'il peut y avoir ici en France.
On va certainement l'inviter, lui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire en tant qu'élu, en tant que politique français sur les questions LGBT, aussi sur les questions du VIH et de l'aide médicale à mourir. Christophe
Et du
Gérard, et
chemsex
du
également.
chemsex aussi, effectivement. Christophe Gérard, merci beaucoup. On se reparle le mois prochain.
Bah écoute, j'étais ravi d'être dans cette centième.
Eh oui.
Je te souhaite une bonne soirée et au mois prochain.
On s'en souhaite 100 autres et peut-être 200 autres. On continue.